Europe 1. Bonjour, c'est Clémentine Portier-Kaltenbach. Bienvenue au cœur de l'histoire. Dans ce nouvel épisode en deux parties, j'ai eu envie d'évoquer pour vous la sombre histoire de l'Inquisition au Moyen-Âge à travers l'exemple d'un procès qui se déroula à Toulouse, en plein pays cathare. L'Inquisition. Aujourd'hui encore, ce mot fait trembler. Dans notre imaginaire collectif, il évoque l'injustice, l'arbitraire, la violence et la terreur. Mais de quoi s'agit-il au juste? En latin, ce mot « inquisitio » signifie « chercher, enquêter ». L'Inquisition, eh bien cette institution judiciaire mise en place par l'Église catholique au XIIIe siècle pour chercher, ou plutôt pour traquer, ceux qu'elle considérait comme hérétiques. Des cataractes d'eau s'abattent sur la place Saint-Étienne, ponctuées de coups de tonnerre. Entre deux bourrasques, on entend la voix des crieurs missionnés dans toutes les rues de Toulouse pour annoncer la venue de l'inquisiteur, Bernard Guy. Le moine dominicain s'apprête à rendre son verdict dans les travées de la cathédrale. La pluie torrentielle grossit les ruisseaux qui ravinent les rues. Sur le parvis du sanctuaire, on vient d'achever la construction de deux échafauds. Les Toulousains ont pris l'habitude de voir s'ériger ces bûchers. Au siècle précédent, le 12 avril 1229, le traité de Paris avait mis fin à 20 ans de croisades sanglantes contre les cathares. Mais afin de les éradiquer une fois pour toutes, on avait alors lâché les chiens sur les hérétiques qui infestaient encore le sud de la France, de Toulouse à Albi, de Béziers à Carcassonne. Cependant, même après la chute des châteaux de Montségur en 1243 et de Quéribus en 1255, dernier refuge des cathares d'importance, l'hérésie restait profondément enracinée chez une partie de la population languedocienne. Le Saint-Siège, dès la fin du XIIe siècle, avait multiplié les avertissements contre cette doctrine qui professait un manichéisme profondément opposé aux dogmes chrétiens, refusait les sacrements, et remettait fondamentalement en question l'autorité temporelle et spirituelle de l'Église. On avait d'abord dépêché des moines pour tenter de ramener les brebis perdues dans le giron de l'Église par la voie de la prédication et de l'exemple. En vain. Des évêchés cathares s'étaient implantés dans les grandes villes méridionales. Toulouse, notamment, avait été l'un des quatre évêchés cathares créés à Saint-Félix en 1167 avec Agen, Albi et Carcassonne. Le peuple des parfaits, comme les appelait l'Inquisition, grandissait à mesure que le clergé scandalisait par ses démonstrations de luxe et sa dépravation. Pour anéantir le venin de l'erreur et présider aux tribunaux de l'Inquisition, le pape fit appel dès 1234 aux frères prêcheurs de l'ordre de Saint-Dominique, qui devinrent en quelques années l'objet d'exécrations de la population.
En avant, chevalier du Christ! En avant, courageuse recrue de l'armée chrétienne. La foi, dit-on, s'en est allée. La paix est morte. La peste hérétique et la rage guerrière ont pris des forces nouvelles. La barque de l'Église est exposée à un naufrage total si dans cette tempête inouïe, on ne lui apporte un puissant secours. Appliquez-vous à détruire l'hérésie par tous les moyens que Dieu vous inspirera. Avec plus d'assurance encore que les Sarrasins, car ils sont plus dangereux, combattez les hérétiques d'une main puissante et d'un bras étendu.
Ce jour pluvieux du 24 mai 1309, près d'un siècle s'est écoulé depuis l'appel solennel d'Innocent III. L'évêque de Toulouse, Gaillard de Pressac, frère Bernard Guy, inquisiteur de la foi, assisté d'une dizaine de notables de Toulouse, reçoivent le serment d'obédience du sénéchal de la ville, Philippe de Fontanès, conformément aux dispositions exigées par Philippe le Bel. Dans la nef de Saint-Étienne, des trônes ont été placés au centre pour l'inquisiteur et l'évêque. Assesseurs, conseillers et assistants les entourent, assis sur de simples sièges. Derrière eux, on a tendu la bannière de l'Inquisition de Toulouse. Sur un drap de velours rouge, un dominicain est représenté à genoux face à un chien qui, tenant dans sa gueule un flambeau allumé, s'apprête à embraser le monde. Le dominicain porte dans une main un rameau d'olivier et dans l'autre un glaive nu. Au-dessus de lui, inscrit en lettres d'or, « Unus Deus, una fides, un Dieu, une foi ». Face à leur juge, 96 personnes ont été rassemblées. Elles attendent le verdict, assises sur des bancs. Derrière elles, le peuple de Toulouse, appelé à la session par les cloches et la clameur des crieurs, attend lui aussi dans un épais silence, parfois rompu par le tonnerre. La veille, se sont achevés les interrogatoires préliminaires de chacun des prévenus. Aujourd'hui encore, ils doivent se soumettre à une série de questions. L'inquisiteur, vêtu d'une robe noire frappée d'une croix blanche à 8 pointes, se charge lui-même d'interroger les suspects. Assesseurs et greffiers sont prêts à transcrire tout ce qui sera dit sur des parchemins in-folio appelés cyniquement « livres de vie ». Nul avocat pour les futurs condamnés, bien entendu. L'inquisiteur se lève. Il commence son sermon par une menace d'excommunication réservée à tous ceux qui s'opposeraient au jugement du tribunal inquisitorial. Il va, pour chacun des prévenus, poser invariablement la même série de questions sur ce ton à la fois morne et autoritaire qui terrorise encore plus que la colère.
Quelle est votre croyance? Ajoutez-vous foi au discours de l'hérétique? Où êtes-vous allé? Qu'avez-vous fait après avoir écouté celui-ci? Lorsque vous avez entendu les hérétiques, êtes-vous allé chercher des lumières contre eux dans le tribunal de la pénitence? Nommez les hérétiques que vous connaissez. Y a-t-il parmi vos parents, amis, voisins, concitoyens, quelqu'un que vous soupçonnez d'hérésie? Avez-vous hérité d'un hérétique? Avez-vous mangé, dormi? Voyager avec un hérétique? L'avez-vous secouru en santé et en maladie?
Quand un accusé s'enferme dans le silence, l'inquisiteur se contente de parcourir les registres où sont consignés tous les témoignages recueillis contre lui. La scène que je viens de vous raconter n'est qu'une page sur des milliers d'autres de contenus semblables. L'Inquisition, durant des siècles, a répété les mêmes épisodes d'une série où le crime sanctuarisé par l'Église est devenu pour le peuple une morne et horrible habitude. Comment une telle institution est-elle née? Et pourquoi? Il faut d'abord observer ce qu'est l'homme du Moyen-Âge. Il y a 1000 ans, on n'avait pas le même rapport à la vie et à la mort. Nous sommes habitués de nos jours à considérer la mort comme ce qu'il y a de plus terrible dans nos histoires personnelles. Pour les femmes et hommes de l'an 1000, il n'en est rien. Le principal n'est pas la vie du corps, mais celle de l'âme. L'Église de l'époque est toute puissante. Elle assure les moyens de salut à la population et se porte garante, pourrait-on dire, de sa sécurité dans l'au-delà. De ce fait, les crimes de droit commun, surtout le meurtre, s'ils sont bien entendu sévèrement châtiés, sont bien moins graves aux yeux de l'Église que les crimes spirituels. Ces derniers sont invisibles aux yeux, mais ils corrompent la relation de l'homme à Dieu et mettent en danger son salut. Dès le IIIe siècle après Jésus-Christ, Rome, par la voix de ses papes et évêques, a appelé les fidèles au combat spirituel. Ce combat engage l'âme de chacun contre les forces du mal en vue du salut. Nous voici à l'origine des dispositions qui, quelques siècles plus tard, allaient faire naître l'Inquisition. Car si l'homme qui se bat contre le mal le fait dans le respect des canons de l'Église, tout va bien. Mais si d'aventure il se prend à modifier les dogmes pour une raison ou pour une autre, alors il met en danger et son âme et l'Église tout entière. C'est cette transformation du dogme qu'on appelle hérésie. Depuis l'origine du christianisme, les hérésies n'ont cessé de bousculer l'ordre établi par l'Église. Les énumérer prendrait trop de temps. Elles furent combattues par les saints et les docteurs de l'Église et bon an, mal an, la nef de la catholicité avait pris l'habitude de voguer sur elle sans risquer le naufrage. Mais tout change à l'aube du XIIIe siècle. Une hérésie d'un genre nouveau apparaît, le catharisme, qui se montre capable de mettre en péril l'équilibre de tout le monde chrétien. Le catharisme touche les gens simples, mais aussi les intellectuels. Cette hérésie est embrassée par les puissants. Comte Zéduc se rallie avec le peuple à cette doctrine qui séduit par sa simplicité. En quelques années, tout le sud de la France lui est acquis. Son credo reposait sur l'idée que le monde visible était l'œuvre du démon. Le dieu d'amour planait au-dessus d'une création mauvaise dans son essence. Pour obtenir le salut, les hommes devaient s'affranchir des contraintes terrestres et recevoir un seul et unique sacrement, la consolation, qui faisait d'eux des parfaits. Ordre est donné depuis Rome d'écraser les hérétiques. Les massacres perpétrés contre les Albigeois laisseront une marque indélébile dans la mémoire des Français et cette injonction qui en est comme le résumé « Tuez-les tous, Dieu reconnaîtra les siens ». L'éradication des cathares n'en finit pas pour autant avec le catharisme. L'hérésie avait la vie dure. En 1231, le pape Grégoire IX établit la constitution du premier tribunal d'inquisition chargé d'extirper l'hérésie qui s'était propagée dans le nord de la France et de l'Europe. Jusque-là, Rome avait chargé les ordres séculiers par le biais du tribunal ecclésiastique de juger les affaires d'hérésie. Mais les méthodes employées pour ramener les coupables dans le sein de l'Église paraissaient trop molles pour être efficaces. Les évêques, manifestement, avaient d'autres chats à fouetter. Quant aux prêtres chargés de juger les éventuels coupables, ils étaient bien trop liés à leurs ouailles pour se montrer impartiaux dans les délibérations. C'est dans ces circonstances que Rome fit appel aux moines dominicains, les frères prêcheurs. Ils avaient réputation de pauvreté. Ils étaient des théologiens aguerris. Il fallait que celui qui soit désigné pour extirper l'hérésie soit libre de ses décisions. Il fut donc stipulé que l'inquisiteur n'aurait de compte à rendre qu'au pape. Sa juridiction serait libre de toute influence venant de l'évêché ou du pouvoir royal. Rome, en ce milieu du XIIIe siècle, venait, au nom de l'amour, de nommer un homme seul pour décider de la mort de la multitude. L'inquisiteur est tout-puissant dans le diocèse dont il s'occupe. Il a le pouvoir de s'entourer de conseillers de son choix, pris dans les ordres ou dans la société civile. Durant toute la durée de son mandat, lui et ses associés reçoivent l'indulgence plénière. Cette grâce assure le salut sans condition à tous ceux qu'elle touche par décision du Saint-Père. Les autorités civiles du diocèse inspecté doivent prêter serment de faciliter la tâche de l'inquisiteur sous peine d'excommunication. Le gîte et le couvert du tribunal sont assurés par le sénéchal de la ville. Un odieux simulacre d'instruction précède la mise en accusation des suspects. On recueille sur eux tous les témoignages à charge. Une fois qu'on a acquis la certitude de leur implication dans l'hérésie, l'inquisiteur se rend en personne chez eux, accompagné de gardes. Par des paroles doucereuses, on fait comprendre aux malheureux qu'ils doivent faciliter la tâche du tribunal en avant tout. S'ils se montrent coopératifs, il ne subira aucune peine. La plupart du temps, on suit la sinistre compagnie sans méfiance aucune. Dans les prisons créées pour la circonstance, des geôles sinistres attendent leurs nouveaux locataires avant le début des choses sérieuses. Si cette plongée dans l'histoire vous a plu, parlez-en autour de vous. Et faites-moi part de vos commentaires sur le groupe Facebook Au cœur de l'histoire, je vous lirai. Ce podcast est une création Europe 1 Studio. L'épisode que je viens de vous raconter a été écrit par Jean-Louis Bachelet. La réalisation est signée Oscar Vatel. Pour ne rater aucun épisode, abonnez-vous sur Apple Podcasts, Spotify, Deezer ou la plateforme sur laquelle vous écoutez habituellement vos podcasts. Et si vous souhaitez aller plus loin, la bibliographie de cet épisode vous attend sur le site d'Europe 1. Je vous retrouve demain pour la seconde partie de mon récit au cœur de l'histoire consacrée à l'Inquisition.